et je suis chargé de vous apporter une pensée de la part du Seigneur. Et cette pensée que je veux vous apporter, bien, nous pouvons la lire dans le livre du prophète Jérémie. Le livre du prophète Jérémie au chapitre 17 et à partir du verset 7 et le verset 8. Passage qui nous parle de bénédiction. Dieu désire nous bénir et voilà ce que Jérémie déclare de la part du Seigneur. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance ou l'espérance, d'autres versions. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne cesse de porter du fruit. Amen. C'est un peu un sujet d'actualité, puisque nous sommes non pas en pleine sécheresse, mais nous connaissons ces jours-ci la chaleur, et quand il fait chaud, qu'est-ce qu'on recherche ? La fraîcheur. Alors les ventilateurs sont là pour vous rafraîchir un petit peu, mais rien ne vaut la fraîcheur de cet arbre qui va puiser auprès de la source d'eau ce dont il a besoin. Jérémie commence ce passage en disant « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance ou l'Éternel est l'assurance. » Alors quand il s'agit de l'homme, il ne s'agit pas simplement des messieurs, mais les dames sont également comprises dans ce passage. Et comme le disait notre frère Adhémar l'autre jour, quand il dit « hermanos », cela veut dire « frère » et sœurs. Et quand la Bible parle de l'homme, et bien entendu qu'il parle aussi de la femme. Alors, mesdames, rassurez-vous, vous n'êtes pas oubliées dans la parole de Dieu. Heureux l'homme, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et la parole de Dieu est là pour nous enseigner. La parole de Dieu est là pour nous apprendre à connaître quelle est la nature de Dieu. Nous découvrons au fur et à mesure de nos lectures bien que nous avons un Dieu qui nous encourage, un Dieu qui désire nous communiquer la joie, un Dieu qui nous aime. Contrairement à ce que peut-être nous avions entendu autrefois, Dieu n'est pas un Dieu fouettard, un père fouettard, mais il est un Dieu rempli d'amour, un Dieu qui nous aime. Et si nous l'aimons, c'est parce que simplement il nous a aimés le premier. Un Dieu qui prend soin de chacun de nous chaque jour. Un Dieu qui nous encourage, un Dieu qui nous réconforte, un Dieu qui nous montre sa compassion, qui nous montre sa patience, sa miséricorde. Mais également, c'est un Dieu qui est juste, un Dieu qui bien, nous amène à considérer quelle est notre position à notre égard et ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire de sa personne, ce que nous pouvons faire de son enseignement. Paul écrivait à Timothée en ces termes, disait ceci, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. » Alors, il ne s'agit pas d'une correction avec la main, mais dans le sens d'éduquer, « pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et nous ne pouvons pas prétendre connaître Dieu si nous ne connaissons pas sa parole. Et sa parole, elle est là pour, comme nous venons de lire, pour nous enseigner, pour nous faire grandir. Elle est là pour nous instruire et pour apprendre à connaître qui est vraiment notre Dieu. Et ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous, c'est que nous parvenions à une plénitude, que nous soyons dans l'abondance. Dieu bénit son peuple. Dieu nous donne l'abondance. Dieu nous donne toutes choses. Et ça, je veux le croire. Parce que parmi nous, je pense que beaucoup ont reçu de sa part plénitude sur plénitude. Et vous connaissez très bien ce passage, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé pour chacun d'entre nous. Son désir, sa volonté, c'est que nous soyons bénis les uns et les autres, et que nous soyons aussi en bénédiction les uns pour les autres. Le commandement que je vous donne, dira Jésus, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nous apprenons à respecter Dieu, à l'aimer, mais aussi nous apprenons à aimer nos frères et nos sœurs, les accepter comme ils sont, vous m'acceptez comme je suis. Nous nous supportons les uns les autres, et c'est quelque chose de formidable dans la famille de Dieu. C'est que là où est l'amour de Dieu, là où est son esprit, eh bien, il y a la paix, il y a le respect des uns pour les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Béni soit l'homme qui se confie en toi, pouvoir se confier, chercher la face de Dieu. Jésus dira, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Avoir placé sa confiance en Dieu, bien, c'est recevoir de sa part tout ce que nous ne pouvons pas recevoir ou avoir de par nous-mêmes. Dieu, je parle de bénédiction, Dieu désire que nous soyons dans l'abondance, et nous savons que nous avons reçu grâce sur grâce, parce que nous sommes confiés en lui, nous avons reçu son pardon, nous avons reçu la guérison de notre corps, mais aussi de notre âme, et Dieu nous donne toutes choses en abondance. L'éternel est l'espérance, pouvoir se confier, pouvoir avoir cette certitude que ce que Dieu dit, et bien ce qu'il déclare, nous le verrons s'accomplir. Placer son espérance dans le Dieu puissant et vrai. Nous avons chanté qu'il était notre rocher, il était notre abri, et c'est vrai que pour nous, Dieu, c'est la sécurité, c'est de pouvoir savoir que chaque jour, nous avons un Seigneur qui nous aime, un Seigneur qui veille sur nos vies, un Seigneur qui nous accorde sa miséricorde, sa compassion. Et dans l'exemple de la vie de Job, eh bien, Job, c'est, l'Écriture nous dit que c'était un homme juste, un homme qui craignait Dieu, et pourtant, cet homme a connu l'épreuve. Et au moment de l'épreuve, eh bien, Job a pu dire ceci, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job avait une espérance inébranlable dans la personne de son Dieu, et malgré l'épreuve qu'il était en train de subir et l'épreuve que venait lui faire subir par-dessus tout cela, son épouse qui lui disait « Maudit Dieu et meurt », Job a gardé son espérance. Et à la fin de sa vie, il pourra dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit ». Et notre espérance, c'est de voir, de croire en un Dieu puissant, mais notre espérance, c'est de voir un jour tel qu'il est, de le voir face à face, d'être dans l'éternité avec lui. Béni soit l'homme qui place son espérance en l'Éternel. Et je ne crois pas que le Seigneur se trompera un jour sur notre sort. Le Seigneur, nous ne serons pas confondus lorsque nous paraîtrons devant lui. Tous ceux qui se confient en toi, dit l'Écriture, ne seront pas confondus. Et parfois, le terme « confondu » est remplacé par le terme « confus ». « Quiconque croit en lui ne sera pas confus ». Un autre verset. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Votre espérance, est-ce qu'elle est placée dans le Dieu vivant et vrai, dans ce Dieu qui ne change pas, comme nous l'avions partagé il y a quelque temps? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de variation dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui soit changé. Dieu demeure éternellement le même, que son nom soit béni. Dans le psaume 84, je vous lis ce verset, « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi ». Et nous avons des ressources exceptionnelles lorsque nous nous confions en Dieu, lorsque notre espérance est dans le Dieu vivant. À partir du verset 8, Jérémie donne une image. Et au travers de cette image, nous en tirerons un enseignement spirituel. L'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance, il est comme un arbre. Alors, je ne sais pas si la métaphore vous plaît, vous auriez peut-être préféré que l'on vous compare mais comme cela est dit dans la Bible, à une brebis, parce que cela nous ramène au bon berger. Nous sommes également le sel de la terre, dira Jésus. Nous sommes la lumière du monde, et au travers de ces exemples, nous nous sentons flattés, nous nous sentons élevés. Le Seigneur nous met à un niveau autre que celui que nous avions auparavant. Il dit que nous sommes également des pierres vivantes, nous sommes un édifice tous ensemble qui n'a pas été construit de main d'homme, nous sommes un édifice spirituel, mais il dit nous sommes comparés à un arbre. Alors dans la parole de Dieu, l'arbre est souvent cité. Il y a le bon arbre qui porte de bons fruits, le mauvais arbre qui porte de mauvais fruits, et Jésus dira, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et l'inverse, un mauvais ne peut pas porter de bons fruits. Et pourtant, l'arbre, c'est une image qui revient, je le disais, qui revient souvent. Et le plus beau compliment qu'une jeune fille ait pu faire à son fiancé, et je ne sais pas si, messieurs, un jour on vous a fait un compliment identique, mais dans le livre des Cantiques, il est dit ceci, « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes gens. » Le bien-aimé est comparé à un pommier. Alors bien sûr, un pommier au milieu, si vous êtes dans une forêt et que tout d'un coup, au milieu des buissons, au milieu des épines, au milieu de tous les arbres, vous découvriez un pommier, bien sûr, vos regards vont se porter sur cet arbre magnifique qui pousse au milieu de tous les autres. Mais le jeune homme, au milieu de tous les autres, elle avait remarqué un jeune homme exceptionnel et elle le comparait à ce pommier. Et je trouve que c'est un bon compliment. Le croyant est comparé à un arbre. Je ne sais pas ce que cela vous fait penser, mais un arbre, ce qui le caractérise, c'est sa stabilité. Vous ne verrez pas un arbre ou un platane lorsque vous circulez, passer de l'autre côté de la route. Là où il a été planté, il demeure. Et le croyant, quand il croit, quand il a accepté Jésus-Christ, eh bien sa stabilité, elle vient de ce qu'il demeure ferme dans sa foi, ferme dans ses convictions, parce qu'il a rencontré un Seigneur tout-puissant, parce qu'il a rencontré un Sauveur, parce qu'il sait qu'il a été pardonné, parce qu'il sait qu'il a un ami fidèle, qu'il a un compagnon de route, qu'il a un consolateur. Et c'est là où nous devons puiser, nous aussi, notre stabilité. La stabilité de l'arbre, c'est son enracinement. Il nous est parlé qu'il étend ses racines vers le courant d'eau. Vous avez dans les environs des plantations de pommiers en grand nombre. Et vous avez remarqué que ces arbres sont soutenus. Ils sont ce qu'on appelle palissés. Il y a des poteaux, il y a toute une structure métallique qui permet à l'arbre de s'élever. Et si l'arbre a besoin de cette structure pour le soutenir, c'est parce qu'il n'a presque pas de racines. Et si vous enlevez les attaches qui le relient à l'armature et que vous preniez l'arbre, vous n'avez pas besoin de faire de grands efforts pour le mettre à terre. Et le croyant, il a besoin que ses racines, que ses convictions, que sa foi, eh bien, elles soient dirigées profondément dans le sol, qu'elles soient ancrées dans la parole de Dieu. Et c'est vrai que la parole de Dieu est pour nous une source de vie, une source de nourriture. Dans la parabole du Seigneur, dans Matthieu 13, il est parlé de la semence qui est tombée dans les endroits pierreux. Elle a levé rapidement, mais quand est arrivée la sécheresse, quand est arrivée l'épreuve, eh bien, cette semence, elle a séché, parce qu'elle n'avait pas de racines. Et nous avons besoin d'être enracinés, d'être fondés sur la parole de Dieu. Et c'est ce que L'apôtre Paul nous enseigne au travers de ses lettres, par exemple, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 14, il dit « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Passage un peu long, mais le fait que nous soyons enracinés dans la foi, enracinés dans la parole de Dieu, nous sommes amenés à comprendre quelle est la grandeur, quelle est la puissance, quel est l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et ça, nous pouvons le découvrir au fur et à mesure que nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, au fur et à mesure que nous scrutons l'enseignement que Dieu veut nous donner. À ce moment-là, nous pouvons dire que nos racines, elles plongent vers le courant, que nos racines, notre foi, elle n'est pas bâtie sur du sable ou quelque chose de mouvant, mais elle est bâtie sur la parole de Dieu, elle est bâtie sur son enseignement. Il dira dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, au verset 7, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Saint-Esprit, marchez en lui, étant enracinés et fondés à lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Et ce n'est pas le fait toujours de recevoir, mais je crois que pour ce que le Seigneur accomplit dans chacune de nos vies, bien, nous pouvons le bénir, nous pouvons le louer comme nous l'avons fait ce matin, être reconnaissant pour l'œuvre et pour le moyen qu'il nous donne de recevoir sa parole, qu'il touche notre cœur, qu'il nous remplisse de son esprit afin que nous soyons débordants. Et Jacques dira également, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Plongez les regards, plongez vers la source, plongez nos regards vers Dieu, nous ancrer dans sa parole, dans tout ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et c'est vrai que l'eau est indispensable à la croissance de l'arbre. L'arbre a besoin de nourriture, il a besoin de cette eau pour grandir, pour rester vert. Et vous l'avez, là aussi je prends l'exemple que nous avons autour de nous, et il n'est pas rare que vous voyez au-dessus des plantations, au-dessus des champs de maïs, eh bien les arroseurs, les sprinklers, les canons qui apportent l'eau nécessaire à la vie de la plante. Et nous avons besoin nous aussi de cette eau vive. Dieu est comparé à cette eau vive, il est dit ceci, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées. Dieu est pour nous une nourriture, il est là pour nous rafraîchir, sa parole nous aide. Et l'Écriture nous dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Alors on peut puiser, on peut aller chercher, et c'est une source qui ne tarit pas. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie aux sources du salut. Lorsque le prophète Élisée était à Jéricho et que les fils des prophètes étaient partis à la recherche d'Élie qui venait d'être enlevé au ciel par le Seigneur, les fils des prophètes sont revenus et ils ont dit à Élisée, nous ne l'avons pas trouvé. Élisée leur a dit, mais je vous l'avais dit, hein, c'est pas peine de le chercher. Vous ne le trouverez pas. Et ils se sont trouvés dans cette ville de Jéricho. Et le constat qu'ils ont fait, c'est de dire, le séjour où nous sommes est agréable, mais les eaux sont amères. Où est-ce que nous puisons nos ressources? Où est-ce que nous puisons notre eau? Et c'est vrai que si l'on regarde autour de nous, on peut trouver à certains égards, certaines satisfactions. On peut trouver à certains égards de la consolation, mais on se rend compte, en voyant tout ce qui se passe autour de nous, c'est que les eaux que le monde désire nous offrir, ce sont des eaux amères. Lorsque le peuple est arrivé, après avoir passé la mer Rouge, dans le pays de Canaan, enfin dans le désert, pardon, du Sinaï, la première chose qu'ils ont trouvée, c'est les eaux de Marah. Et les eaux de Marah, elles avaient quelque chose. Elles étaient amères. Et pour rendre ces eaux saines, le Seigneur a dit à Moïse de jeter un bâton sur les eaux afin qu'elles deviennent saines. Et je crois que pour notre monde, nous avons besoin de proclamer la puissance de l'Évangile. Nous avons besoin de proclamer la croix. Et ce morceau de bois qui a été jeté sur les eaux amères, bien, symbolise la croix qui a été dressée à Golgotha pour que le monde puisse, eh bien, non pas se délecter des eaux amères, mais qu'il puisse venir auprès de celui qui a la source d'eau, qui est celui qui peut déverser dans chacune de nos vies l'eau vive dont nous avons besoin, où nos racines ont besoin de se plonger. Et puis, il y a les bénédictions que Dieu promet dans sa parole et les bénédictions qui se réalisent. Dans les moments de lutte et dans les moments de combat, quand l'épreuve survient, notre confiance et notre espérance sont en Dieu. Beaucoup parmi nous, je le pense, ont expérimenté ces grâces, ont expérimenté des bénédictions, de voir le Seigneur agir dans les moments difficiles, de le voir bien dans les situations désespérées, et même simplement quand tout va bien, de pouvoir le remercier parce qu'il est l'auteur de toute chose. Pour cela, Christ a dû offrir sa vie en sacrifice. Il s'est livré lui-même pour nos péchés, pour nos iniquités, afin que nous soyons sauvés et qu'il nous donne la vie ici-bas, mais non seulement ici-bas, mais également dans l'éternité. Paul pouvait dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et cela ne veut pas dire que nous avons atteint la perfection. Et la perfection, même pour les croyants, elle n'est pas de ce monde, nous ne l'atteindrons pas. Mais ce que dit l'apôtre Paul, c'est de courir vers le but afin de l'atteindre, afin de recevoir la couronne qui sera réservée. Il dit « courons vers le but pour essayer de la saisir, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Et par la confiance, par l'espérance que nous plaçons dans notre Seigneur, eh bien, nous voyons les bénédictions s'accomplir comme cet arbre qui, au moment de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne craint pas, et le Seigneur nous le rappelle au travers de sa parole, au travers des évangiles, dit ceci, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi s'inquiéter pour le vêtement? Pourquoi s'inquiéter pour la nourriture? Et je reprends ces paroles que j'ai pu lire tout à l'heure, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Gloire à Dieu. Alors, bien sûr, dans la parole de Dieu, il est cité en grand nombre beaucoup d'arbres. Alors, il y en a de toutes sortes. Et avec la concordance, j'en ai relevé 23. Alors, on peut parler du chêne, on peut parler de l'acacia, on peut parler du sycomore, ça vous rappelle quelque chose? On peut parler du figuier, là aussi, ça vous parle. On peut parler du palmier et de bien d'autres, vous pourrez feuilleter le cèdre et le cèdre du Liban. Et la question que je me suis posée et que je vous pose, et je ne vous demande pas d'y répondre, à quel arbre aimeriez-vous ressembler? Alors, moi j'en ai choisi un parmi tous. Et je vais vous dire lequel. Vous êtes curieux? Oui, vous voulez savoir? Alors on va lire dans, non pas que je me l'attribue personnellement, mais je trouve que c'est une image qui là aussi nous parle. Et on va le lire dans le psaume 92. Psaume 92 et au verset 13. Alors il est dit ceci, « Les justes fleurissent comme le palmier. » Alors je ne suis pas le seul juste. Tous les justes, c'est vous et moi, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, parce qu'ils ont été sanctifiés par Dieu. Nous l'avons reçu et à cause et par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été pardonnés et nous sommes devant Dieu saints. L'Écriture ne dit pas que nous sommes parfaits, mais nous sommes saints, sanctifiés par Dieu. Les justes fleurissent comme le palmier, ils croissent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont encore féconds dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a pas d'injustice en lui. Alors, on ne va pas parler de tous les arbres, mais j'aimerais vous parler du palmier. Est-ce que cette image du palmier vous évoque quelque chose? Alors, quand le peuple, après avoir traversé et connu l'épreuve de Marat, Dieu l'a conduit à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et le palmier, il croît là où il y a de l'eau. Si dans le désert vous voyez des palmiers, eh bien vous êtes certain qu'à côté il y aura de l'eau. Le palmier, par sa nature, il a des racines qui s'enfoncent très profondément dans le sol. C'est un arbre qui tient bien sur ses pieds. Là, on retrouve aussi l'image de l'enracinement. C'est un arbre qui a besoin d'eau pour sa croissance, pour ça qu'il est souvent à proximité des sources d'eau. C'est un arbre qui s'élève d'une manière rectiligne. L'image du croyant, c'est l'image de l'homme, de la femme, qui a des racines profondes, nous en avons parlé tout à l'heure, qui plonge ses racines vers la source d'eau vive. Mais le croyant, eh bien, l'image du palmier, il doit s'élever, il doit grandir. Dans l'image du palmier, il y a ceci, c'est qu'au fur et à mesure qu'il croît, il laisse tomber à terre les palmes qui sont devenues inutiles. Et la parole de Dieu nous invite à nous débarrasser du manteau, du péché qui nous enveloppe si facilement. La parole de Dieu nous invite à enlever de notre vie ce qui peut nous empêcher de grandir, de prospérer. L'Écriture nous dit que nous devons marcher de progrès en progrès afin d'arriver à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons, les uns et les autres, nous élever d'une manière constante, d'une manière croissante. On n'a jamais vu un palmier grandir avec des hauts et des bas, grandir en dents de scie. Et c'est vrai que s'il grandissait de cette façon, le jour où il y a du vent, mais il pourrait se briser en deux. Et nous voulons grandir, nous voulons prospérer en nous débarrassant de tout ce qui autour de nous ou dans nos vies devient inutile, des choses futiles avec lesquelles parfois nous sommes embarrassés, nous traînons parfois derrière nous des boulets qui nous empêche d'avancer, mais comme le palmier, nous devons, au fur et à mesure que nous grandissons, eh bien, nous débarrasser de ce qui devient inutile. Le tronc du palmier, bien, il porte les cicatrices de ces palmes qui sont tombées. Et parfois, dans nos vies, nous avons des cicatrices qui sont visibles, nous en avons d'autres qui se voient moins, mais la progression que nous entreprenons avec le Seigneur, et peut parfois nous oblige à faire des choix, à faire des sacrifices, et peut-être à couper certaines choses qui nous empêchent de grandir, qui empêchent notre communion avec le Seigneur. Le palmier y croit, et il se termine par un bouquet de palmes, et pour le palmier dattier, avec des fruits qui sont délicieux. Les palmes symbolisent la gloire, symbolisent la victoire, elles symbolisent la paix. Et lorsque nous grandissons, lorsque nous prospérons, lorsque nous allons de progrès en progrès, eh bien, que nous puissions dégager autour de nous ce que représentent les palmes, la gloire de Dieu, la victoire que nous avons trouvé en Jésus-Christ sur notre péché, sur notre vaine manière de vivre. L'Écriture nous dit, c'est Paul qui en parle dans la première épître aux Corinthiens, nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et l'apôtre Paul regardait sa vie passée comme de la boue. Et nous devons, bien à l'image de l'apôtre Paul, regarder non pas toujours en arrière, comme l'a fait la femme de Lot, mais regarder, porter nos regards vers Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Et puis, les fruits, il faut qu'ils soient visibles. Alors les fruits, s'ils sont cachés, personne ne les verra. Et nous devons, il faut que le monde voit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes de véritables enfants de Dieu, et que le fruit que nous faisons voir ou que nous avons en nous, bien c'est le fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la joie, je vous le donne dans le désordre, la patience, la tempérance, la bénignité, la maîtrise de soi, la joie, je ne sais pas si je l'ai dit, et que le monde voit que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Les justes croissent comme le palmier. Alors vous pourrez méditer sur les autres essences, vous pourrez méditer sur le cèdre, méditer sur l'acacia, méditer sur le figuier, sur l'olivier également, et vous verrez qu'il y a dans ces images un enseignement profond pour chacune de nos vies. Alors ce matin, nous avons partagé avec le palmier, et rappelez-vous que, béni soit l'homme qui place sa confiance en Dieu et dont l'Éternel et l'espérance. Donc, ne variez pas, gardez votre foi intacte. Le reproche qui est fait à l'église de Laodicée, c'est qu'elle avait abandonné son premier amour. Alors, ne soyons pas de ceux qui abandonnent, qui s'arrêtent en route, mais qui continuent, qui persévèrent, qui gardent le cap. Et le Seigneur nous récompensera pour notre attitude, pour notre persévérance. Amen.